L'ISG, l'Institut supérieur de gestion, fait partie de ces établissements qui forment leurs étudiants pour devenir des managers internationaux qui peuvent donc travailler dans n'importe quel pays au monde. Alors, quelle formation reçoivent-ils pendant leur cursus? Thierry Sebag, le directeur général de cet institut, précise tout d'abord ce qu'est l'ISG International Business School.
L'Institut supérieur de gestion est une école de commerce et de management. Elle a été créée en 1967, elle est membre de la Conférence des grandes écoles, elle est implantée aujourd'hui sur 8 campus en France, son siège est à Paris, mais elle est aussi présente à Bordeaux, à Lille, à Lyon, à Nantes, à Nice, à Strasbourg et à Toulouse. Elle a un campus à Genève, elle forme naturellement des managers dans tous les métiers auxquels on forme dans une école de commerce et de management, les métiers du marketing, de la communication, de la finance, de la logistique, on appelle ça maintenant les achats, la logistique, et puis aussi forcément tous les métiers du commerce international. Et quand on vient dans une école comme l'ISG, l'international, c'est très important.
Qu'est-ce qui pousse un jeune aujourd'hui à faire une école de commerce ?
En premier lieu, c'est l'envie de se faire un réseau. Pour beaucoup de nos élèves, quand ils viennent dans une école, ce qu'ils viennent chercher, c'est un nom à mettre sur un CV. Et un nom à mettre sur un CV, c'est tous les noms que l'on va pouvoir contacter parce qu'ils auront fait la même école que soi.
Le réseau d'alumni, d'ailleurs, est important. 30 000 personnes à travers le monde.
Exactement. C'est 30 000, les alumni, ce sont les diplômés. 30 000 diplômés, hommes, femmes, qui sont présents dans tous les métiers, sur tous les continents et dans tous les secteurs. Ce n'est pas réservé à des gens qui sont très 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 vieux. Je vais vous en donner un ou deux. On a une petite qui s'appelle Léa Weber. Elle a été diplômée en 2021. Son premier poste, elle a commencé chez BNP Paribas. Elle est en poste à Singapour et elle est cash manager. On a une jeune fille qui s'appelle Paula Ferreira. Elle a commencé au contrôle de gestion chez Gucci au Mexique. Elle est aujourd'hui implantée à Paris, et c'est une diplômée de 2022. Et puis, parmi des profils qui font envie, on a une jeune femme qui s'appelle Sabine Serre. Elle est aujourd'hui la directrice marketing de Barnes à New York. Alors, quand on voit ces profils, on se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est bien. Alors, ils ne parlent pas tous à l'international. Hein. Parfois, on a aussi des jeunes qui voyagent beaucoup pour leur travail. C'est le cas d'un jeune qui s'appelle Franklin Ayoc. Il travaille au Crédit Agricole et aujourd'hui son métier c'est la gestion des risques et il sillonne le monde pour Crédit Agricole pour mettre en place toutes les bonnes procédures pour permettre à la banque de gérer le risque.
Quels sont les outils que vous donnez à vos étudiants pour leur permettre d'être des managers internationaux ?
Les outils qu'on leur donne, c'est d'abord des outils de compréhension du fait multiculturel. Donc on leur apprend à rencontrer, à travailler dans des équipes qui soient multiculturelles. Naturellement, on leur apprend les langues et forcément l'anglais. Nous avons dans tous nos parcours, que ce soit le programme Grande École, mais aussi le bachelor en management international, des tracks qui sont full en anglais. Et puis une expérience internationale extrêmement forte. Et c'est ça pour moi qui constitue la grande force de l'école. On a des étudiants qui sont arrivés à l'école en première année, en septembre, et on est à la fin de la première année. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, 8 mois. En 8 mois, certains ont déjà fait 5 voyages internationaux. C'est énorme. Vous imaginez, ils sont partis 5 fois au cours de leur première année. S'ils restent 5 ans dans l'école, ça veut dire qu'ils ont 20 voyages, 20 destinations. Alors, les voyages, vous savez, à l'école, c'est pas simplement partir dans un pays, c'est partir à la rencontre d'un métier et, bien entendu, d'une nouvelle culture.
Comment se déroulent ces voyages et qu'est-ce qu'ils font concrètement à l'étranger ?
Ce qui a été probablement le plus exotique pour des étudiants européens, ça a été le Japon. Le Japon, c'était probablement ce qui était le plus distant pour eux. D'abord parce que vous arrivez dans un pays où vous ne comprenez même pas ce qui est écrit sur les panneaux, parce que très peu lisent le japonais. Et puis, on apprend à dire les phrases essentielles. Les phrases essentielles, c'est « Bonjour, nous sommes très honorés d'être accueillis aujourd'hui ici. Malheureusement, nous ne parlons pas japonais. » Et donc, nous allons être obligés, nous, de poursuivre en anglais. Ces quelques mots-là, les étudiants à qui nous les avons appris, leur ont permis d'aborder l'ensemble de leurs interlocuteurs. Que ce soit le fondateur de Rakuten, que ce soit la direction générale de Toyota, mais que ce soit aussi, tout simplement, dans un taxi, dans un restaurant, où ces quelques mots-là permettent très vite de rentrer dans la culture de l'autre. Alors, quelquefois, on ne connaît pas la culture et la découverte du fait multiculturel est un élément très fort. Et donc, on apprend tout Avant de partir, on apprend à se préparer, on apprend les codes, les usages. Les préparations à l'école se font le dimanche avant qu'on ne parte. On est parti en Côte d'Ivoire sur les matières premières responsables et les énergies renouvelables. Nous avons reçu l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à l'école un dimanche. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, il vient nous voir à Kwaba.
À Kwaba, c'est-à-dire bienvenue dans une langue ivoirienne.
Voilà, à Kwaba. Et donc, on apprend des codes qui sont des codes usuels. Alors, parfois, ça nous fait sourire. Voilà, quand on dit à l'autre, on vous demande la route.
En Afrique de l'Ouest, demander la route, c'est exprimer le désir de partir. C'est la fin de la visite et littéralement, l'on demande l'autorisation de partir.
Voilà, on apprend ça. Ça fait sourire tout le monde, mais...
Ça brise la glace.
Exactement, ça brise la glace et on apprend ça. Et lorsque ces mêmes étudiants vont au Japon, quelques semaines au préalable, ils étaient à Londres. Quelques semaines après, ils se retrouvent à Budapest. Ils se retrouveront à la fin de l'année aux États-Unis. Avant de partir aux États-Unis, où ils rencontreront le président de Richmond Amérique. Richmond, c'est Cartier, c'est IWC, c'est Jaeger LeCoultre, c'est Van Cleef. Le fait de se retrouver à l'ambassade des États-Unis pour préparer leur voyage, l'ensemble des questions géopolitiques, ça sera le 23 mai à l'ambassade des États-Unis à Paris. Quand on a cette chance-là d'avoir tout ça au cours d'une première année, et ça n'est que la première année, vous imaginez, au bout de 5 ans, l'expérience accumulée. Et donc, dans notre façon de préparer ces managers au fait international et au fait multiculturel, il y a la volonté de les exposer à une très grande richesse de culture. Les enseignants que nous avons pour moitié sont des enseignants internationaux. Ça donne aussi un élément supplémentaire. Et puis enfin, on leur donne des cas qui sont les cas d'application dans les pays, qui fait que lorsque l'on est reçu dans un pays ou dans un autre, ou bien tout simplement dans une région française, et qui va expliquer aussi ses particularités, donc ses difficultés à aborder d'autres marchés. On est allé au mois de septembre en région Champagne. On a été accueilli par M. Pierre-Emmanuel Tétinger, le propriétaire du domaine Tétinger. Et donc, quand il explique voilà, ce qu'est un champagne, quelles sont les différences de goût. Quand on est un client, un consommateur russe, on veut des champagnes plutôt sucrées. Quand on est un consommateur européen, comme nous, on veut des champagnes moins sucrées. Tous ces codes-là, on les intègre et on apprend comment on va aborder du business à l'international, que l'on soit en France ou que l'on parte à l'international dans d'autres pays.
Ce qui permet de monter dans l'échelle n'a rien à voir avec le background des parents quand on a affaire à des étudiants de milieux sociaux différents.
Quand on arrive dans une école, derrière ça, il y a forcément des histoires personnelles. On pense parfois être bon élève, mais quand vous parlez avec un accent, quand vos parents ne peuvent pas vous suivre parce qu'ils n'ont pas fait d'études, vous êtes forcément livré à vous-même parce que quand on vous présente des métiers que vous êtes dans les toutes petites classes, vous dites « Oh bah oui, pourquoi pas finalement ?» Mais quand vous avez 11, 12 ans, le « pourquoi pas ?» quand vous avez 20 ans, c'est plus le même. Vous comprenez que c'est plus le même. Et vous comprenez que vous avez fait peut-être des erreurs dans vos choix. Et donc, dans la reproduction des élites, il faut partir de là. Dans la reproduction des élites chez Bourdieu, c'est la reproduction des réseaux familiaux. Et quand on est issu des lignées qui viennent de l'étranger, quand vous voyez vos camarades de classe, vous vous dites, finalement, j'ai été une exception. Quand on arrive au moment des remises des diplômes, je fais souvent ce même discours. On construit l'histoire des familles sur 3 générations. Il y a la génération des enfants, on leur demande à eux de faire des efforts. Il y a la génération des parents, eux, ils font des sacrifices. Mais le sacrifice originel, ce n'est pas les parents qui l'ont fait, c'est les grands-parents. Parce que eux, ils sont toujours présents. C'est l'oreille des enfants. Quand ça ne va pas, les enfants vont parler souvent à la grand-mère ou au grand-père, parce que c'est plus facile de se confier au grand-père ou à la grand-mère. Et deux, quand il y a besoin d'aider, les grands-parents disent « Ah, mais moi, vous savez, c'est plus pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pour mes enfants et mes petits-enfants. » Cette histoire-là, on la connaît tous. Et ce qui fait la fierté des parents, c'est le regard de sa propre mère, de son propre père, sur sa propre progéniture qui a réussi. Une fois qu'on a dit ça, ce qui est dérangeant, quand vous arrivez là, vous vous dites « Mais moi, comment je vais faire pour trouver un premier stage ?» Qu'est-ce qui va m'aider à mettre le pied à l'étrier au premier boulot? Comment on va faire?
Bah évidemment, c'est par l'école.
C'est quoi l'école? L'école, ça ne se borne jamais à être le lieu où on transmet des savoirs. Si c'était que ça aujourd'hui, eh ben c'est simple, on a tous un téléphone. La seule chose qui me prive du savoir aujourd'hui, c'est le manque de prise et le fait que j'ai plus de batterie. C'est tout ce qui me prive du savoir. Alors, une fois qu'on a dit ça, très bien. À quoi sert l'école? Eh ben c'est simple. L'école, c'est un réseau. C'est un réseau dans lequel on fait se connecter 2 choses qui portent exactement le même nom. On fait se connecter des gens, les gens que l'on veut connaître, parce qu'ils travaillent dans les secteurs qui nous font envie, parce qu'ils travaillent dans les métiers qui nous font envie, parce qu'ils travaillent sur les continents ou dans les pays qui nous font envie. On appelle ça les connaissances. Monsieur, je connais personne. Madame, je connais personne. Monsieur, vous connaîtriez pas quelqu'un qui ? Vous connaîtriez pas quelqu'un dans ? Ben, bien sûr qu'on connaît. Mais pour que, lorsque je fasse la mise en contact avec, pour que ça fonctionne, il faut encore que vous sachiez des choses, que vous connaissiez des choses. Connaître, ça a un double sens. Connaître, c'est être connecté. Connaître, c'est savoir. Et le réseau, l'école, c'est le lieu où on fait correspondre les connaissances, les contacts, avec les connaissances, savoir. C'est ça qu'on fait dans une école. Si vous connaissez des choses, vous connaîtrez des gens. Dites-moi qui vous voulez connaître et je vous dirai ce que vous devrez savoir, ce que vous devrez connaître. Et le rôle d'une école, c'est de faire en sorte d'amener les bonnes personnes, celles que vous voulez connaître, et en même temps de vous délivrer les savoirs, c'est-à-dire de vous faire acquérir les connaissances pour que lorsque je vous les présente, ça fasse un match parfait entre vous et elles. Le rôle de l'école, il est là. Et donc, mon métier, aujourd'hui, vous voyez, on est parti sur les matières premières extractives et les pratiques durables en matière d'énergie renouvelable en Côte d'Ivoire. On est parti sur l'innovation au Japon. On est parti sur les métiers de la finance au Luxembourg. On fait rencontrer des gens avec des postes incroyables, avec des chiffres d'affaires incroyables. On va partir aux États-Unis dans quelques semaines. Ils rencontreront le PDG de Compass.
Et comment vous faites pour mettre ce réseau en place à la disposition de vos élèves dans les différents pays ?
Alors ça, on les prépare avant. On leur dit, on va aller rencontrer le PDG de Compass aux États-Unis. Compass, c'est 220 milliards de transactions chaque année. C'est un réseau de 35 000 agents aux États-Unis. Mais je leur dis, attention, si vous voulez venir, il va falloir savoir des choses avant. Il va falloir savoir poser des questions. Il va falloir apprendre à poser les bonnes questions. On est parti chez Sanofi et j'avais donné la liste des questions que les étudiants avaient préparées. Je ne dirai pas la question qu'ils m'ont demandé d'enlever, mais ils m'ont dit, Monsieur Sebag, il y a une des questions là, elle est un peu touchy. Est-ce qu'on pourrait... Oui, bien sûr. Moi, je suis très fier quand on me dit ça. Parce que je me dis, j'ai fait exactement mon boulot. Et les gens qui sont en face de nous, ils vont les écouter. Ils ont peut-être 40 ans de moins. Ils ont que 18 ans, mes étudiants. Les autres, ils en ont presque 50, presque 60 pour certains. Donc 18, 58, c'est facile en entreprise, hein, d'avoir des gens qui aient 55, 56, 58 ans. Eh bien, ils vont quand même les écouter et ils vont leur expliquer des choses. Et ça, c'est le rôle de l'école. Le rôle de l'école, c'est de créer des occasions uniques. Mon métier en tant que directeur général, c'est de créer des occasions uniques, c'est-à-dire qui donnent envie de faire, de s'investir et donc d'apprendre. Quand vous donnez l'envie, vous savez, on vient me voir en me disant « Ah, monsieur Sebag, j'aimerais bien travailler dans une école parce que vous comprenez, j'ai toujours eu envie de transmettre. » Mais je me fiche que vous ayez eu envie de transmettre. La grippe aussi, ça se transmet, vous savez. Mais mon métier, c'est pas de transmettre. Mon métier, c'est de donner envie. Donner envie de faire, donner envie de s'investir, donner envie de se lever, donner envie d'apprendre à ces jeunes qui se disent « Mon Dieu, c'est parce que j'ai envie de partir, moi. J'ai envie, moi aussi, d'aller à l'ambassade des États-Unis et de poser des questions enquiquinantes, pour pas dire un autre mot, au chef du service éco de l'ambassade des États-Unis à Paris. Oui, moi aussi, j'ai envie de me retrouver face au directeur général de la mine de Bonikro à 5 heures d'Abidjan pour lui poser des questions sur la façon dont ils exploitent les minerais. Oui, moi aussi, j'ai envie de me retrouver à Agboville, toujours en Côte d'Ivoire, pour aller leur poser des questions sur la façon dont on fait de la déforestation et dont on implante d'autres espèces pour garantir que les températures n'explosent pas en plein soleil et que les arbres ne grillent pas en plein soleil. Mmh. Oui, moi aussi, j'ai envie de me retrouver demain, peut-être, face à la vice-présidente de KPMG au Royaume-Uni pour parler d'IA et de la façon dont l'IA est utilisée pour gérer les plateformes pétrolières en haute mer. Voilà. Mmh. Tout ça, ça donne des envies à nos étudiants. C'est ça une école, un lieu où on donne envie en créant des occasions exceptionnelles, des choses qui ne se reproduiront jamais en se disant « purée, on va vraiment faire ça ? Vous allez faire ça cette année et l'année prochaine, je vous le dis en avant-première, le premier de nos déplacements, tenez-vous bien, il est d'abord sur une plateforme pétrolière en haute mer. On sera accueilli sur une plateforme pétrolière au large du Danemark et on partira ensuite à la fin de l'année, toujours avec la même compagnie pétrolière, sur un de ces champs de pétrole au Texas. C'est ça une école.
En fait, chez vous, c'est « learning by doing ».
Learning by doing, complètement. Et quand on fait ça, vous comprenez, on va parler développement durable. Et on revoit tout. Et on demande aux étudiants, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut savoir? Et ils vous disent, ah monsieur, il faut savoir de la réglementation, il faut savoir du droit. Ah bah oui, il faut savoir du droit de l'environnement. Il faut savoir du droit, de l'exploitation des ressources. Mmh. Oui, mais il faut aussi savoir de la géopolitique. C'est vrai. Ah oui, mais il faut aussi savoir lire un bilan en compte de résultats. C'est vrai. Ah oui, mais il faut aussi savoir des choses sur le développement durable. C'est vrai. Et ainsi de suite. Et vous avez tout ce que vous devez savoir. Et ce sont les étudiants qui le disent.
Ils sont jeunes pour la plupart, comme vous dites, en première année, dans les 18 ans. À 18 ans, on a une façon de s'exprimer, une façon de s'habiller qui peut ne pas cadrer avec ces personnalités qu'on rencontre. Donc, il y a peut-être aussi autre chose que vous leur apprenez.
Je vais commencer d'abord par les questions. Les questions, je leur explique. Vous savez, une bonne question, c'est d'abord une question qui commence par être contextualisée. C'est-à-dire qui commence par rappeler l'intérêt de ce qui va suivre après. Quand vous avez contextualisé votre question, si je commençais, vous voyez, pour dire la question interdite par l'entreprise que j'ai citée précédemment, les autres comprennent que vous êtes sacrément préparé. Si je commence en disant, en 2020, le monde a connu une vague inédite de maladies qui a été planétaire et de toutes les entreprises qui ont déposé des vaccins, une seule, grande, n'était pas présente. J'enlève bien entendu Spoutnik, je cite les quatre grands acteurs de la pharma, et ça, vous comprenez que ça va être une bonne question. Vous comprenez même plus que ça va être une bonne question, vous dites, purée, c'est une sacrée question. La question, elle est contextualisée. Et on apprend à nos étudiants à contextualiser les questions. Ça fait des questions ultra pertinentes, et dès l'âge de 17 ans ou 18 ans. La deuxième chose qu'on leur apprend, dès leur arrivée à l'école. Dans les codes que vous évoquez, vous avez raison. Il y a des codes qui sont des codes de tenue. Des codes de tenue, ça commence avant même le vestimentaire. Si quelqu'un rentre dans mon bureau, je ne reste pas assis à mon bureau. On est d'accord ? Dans toutes les pièces, dans toutes les salles dans lesquelles ils sont, quelle que soit la personne, et si je rentre, ils le savent, ils se lèvent. Ça fait un effet monstre. Plus personne ne fait ça. Ça commence par là. Ensuite, ça commence par dire toutes les questions, avant de poser les questions, puisque j'ai commencé par là, avant de poser les questions, je leur dis deux choses. Je leur dis, un, au moment où vous allez poser la question, vous allez vous lever pour poser votre question. Voilà, que vous soyez dans un amphi ou que vous soyez dans une salle. Ça fait partie des codes. Mais ça ne s'arrête pas là. Ensuite, on commence par dire, tout d'abord, un grand merci monsieur, un grand merci madame, de nous accueillir, de nous recevoir. La politesse, ça fait partie des grands codes. Comme le sourire d'ailleurs. Voilà, il est mal poli d'être désagréable. Et puis enfin, on leur apprend que lorsque l'on fait de grands rendez-vous, il n'y a qu'une seule couleur qui passe. C'est bleu marine. Point final. Et donc on me dit « Ah mais monsieur, j'ai un costume, il est marron, ah mais monsieur, j'ai un costume, il est gris, ah mais... » Non, bleu marine, point final. Que vous soyez un garçon, que vous soyez une fille, je parle pas d'une robe de soirée, hein, je parle d'une tenue pro. J'ai un rendez-vous pour une tenue pro, vous serez en tenue bleu marine. Et donc, alors, vous savez, quand je dis ça, la tenue c'est la couleur de la veste, mais la tenue c'est aussi, pour les garçons, la cravate. On leur apprend que la cravate, elle est importante. Ça, ces codes-là, ils doivent avoir... y compris sur la façon de s'exprimer. La première année où on a commencé, j'ai passé presque une après-midi avec eux sur comment on dit bonjour, comment on serre la main à quelqu'un et la phrase qui vient juste après. Juste ce truc-là, ça marque les esprits. Et si le groupe a les mêmes codes, l'expérience est beaucoup plus forte. Et donc on apprend à nos étudiants à se comporter correctement, on leur explique ces codes, on leur donne tous les codes. Et on le fait dans toutes les langues. Quand on part chez Sanofi à Budapest, je sais que toutes les présentations auront lieu en anglais. Et donc je leur dis, vous, vous allez présenter tout en anglais et poser vos questions tout en anglais. On apprend en français, on apprend en anglais. Naturellement, quand on part en Côte d'Ivoire où tout est en français, on le fait en français. Et on le fait avec tous nos étudiants. Au retour, on leur apprend à re-rentrer en contact avec. Cher monsieur, chère madame, nous avons le plaisir de pouvoir échanger à l'occasion de. Je me permets d'abord de vous remercier pour le temps que vous avez voulu nous consacrer. Pas plus. Pourquoi ? C'est une entrée en relation. On ne demande rien à la première fois. Et on leur apprend ça. On leur apprend à se créer un réseau. Et on leur apprend à se créer un réseau fonctionnel qui, lorsqu'ils en auront besoin, leur servira.
Comment introduisez-vous l'intelligence artificielle dans cette formation de vos managers internationaux ?
Grâce d'abord à un partenariat que l'école a bâti avec OpenAI. C'est la société qui possède ChatGPT et qui déploie ChatGPT à travers le monde. À partir de la rentrée, nos étudiants vont pouvoir avoir accès à des assistants intelligents par discipline et par secteur. Il y a des disciplines plus techniques que d'autres. C'est souvent le cas de la finance, c'est souvent le cas de la comptabilité, c'est souvent le cas de l'économie qui sont un peu plus techniques que d'autres. Et donc, au lieu d'attendre le cours pour poser leurs questions, ils pourront poser leurs questions à des assistants intelligents nourris par les enseignants eux-mêmes. Mmh. Donc c'est les enseignants qui auront pour assistant numérique des assistants qu'ils auront formés et alimentés avec les références bibliographiques qu'ils auront données. Et puis, on le fera aussi par secteur d'activité. Ces assistants, qui sont aussi des assistants sectoriels, vous diront ce que vous devez savoir pour préparer correctement tous vos entretiens de recrutement.